2. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus. Bienvenue à ces Utopiales 2013 pour cette première conférence de cette édition. Et pour cette première conférence, on va parler de la place de la nature dans l'œuvre de Jules Verne. J'ai un petit peu d'écho, mais c'est... tout va bien. Donc voilà, on va donc parler de la nature dans l'œuvre de Jules Verne et se demander un petit peu quelle est la place de cette nature. Vous savez que Jules Verne est très important pour Nantes. Et autour de cette table ronde, nous avons trois intervenants et intervenantes. Je vais commencer par Daniel. Daniel Martinigol est une auteure jeunesse, une auteure adulte également. On va citer quelques ouvrages, Cantoria, Sens interdit, Les oubliés de Vulcain, ou bien encore Les abîmes d'outre-mer. Et puis elle a dirigé une anthologie qui s'appelle 15 voyages de Jules Verne. On va pouvoir en discuter avec elle. Juste à ses côtés, Vincent Calbeau, qui est architecte, à qui on doit cette magnifique affiche qui est au-dessus, qui donc est architecte et qui a eu plusieurs prix, mais on va peut-être en discuter. Prix pour une cité aquatique, totalement en autarcie. Il y a aussi l'Agora Garden, j'ai noté un gratte-ciel éco-durable. Donc voilà, les thématiques écologiques et technologie, écologie, nature, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir aussi discuter. Et puis à ses côtés, Jean-Yves Pommier, expert en aménagement du territoire, mais qui a aussi rédigé Jules Verne, voyageur extraordinaire, une géographie de Jules Verne, un petit peu, et vous dirigez la revue Planète Jules Verne. Vous pouvez peut-être la montrer. Voilà, superbe revue, où il va nous donner un petit peu plus d'explications. On va peut-être commencer d'abord par Jules Verne. Daniel, quand tu as fait les 15 voyages de Jules Verne dans l'anthologie, quelle était la place de la nature dans ses récits ?
Cette anthologie, en fait, elle est destinée à des élèves qui ont environ 13 ou 14 ans, puisque le but de cette anthologie, c'était de faire découvrir Jules Verne à des collégiens et d'essayer d'avoir un diaporama le plus complet possible, en fait, de ce qu'il a écrit, avec uniquement des extraits, parce que le but, c'est, après avoir lu éventuellement un extrait qui leur plaisait, de les inciter à aller au roman dans sa globalité. Donc j'ai envisagé de construire l'anthologie suivant un voyage. C'est 15 romans, donc, hein, 15 extraits, enfin de nombreux extraits de 15 romans, c'est dans ce sens-là qu'il faut le dire. Et puis pour que mes jeunes lecteurs puissent se repérer un petit peu facilement dans l'anthologie, je l'ai construite suivant un voyage, le tour du monde, le pôle Nord, le pôle Sud, l'Amérique, l'Asie, et puis ensuite partir évidemment jusqu'à la Lune, revenir, descendre un petit peu quand même au centre de la Terre, hein, c'est difficile d'y échapper, et puis terminer avec le point d'arrivée qui est en même temps le point de départ, c'est-à-dire j'ai fait partir toute l'anthologie de Paris, on part de Paris et on revient à Paris. Et c'était dans le but d'avoir un exemple... un exemple concret des choses dans l'anthologie pour que mes jeunes lecteurs ne se perdent pas trop. Et en fait, on découvre la nature chez Jules Verne au fur et à mesure de l'avancée dans l'anthologie, parce que à chaque étape, c'est-à-dire à chacun de ces grands romans de Jules Verne, on retrouve de toute façon inévitablement des aspects de la nature très différents les uns des autres, hein, depuis les déserts, en passant par les forêts, jusqu'au fond des mers, et puis effectivement tout ce qui est aussi imaginé au centre de la Terre. Donc je pense qu'on ne peut pas séparer l'œuvre de Jules Verne de la nature. De toute façon, elle est là, elle est omniprésente. Et puis, qui dit voyage, dit découverte de la nature. Hein, donc,
Monsieur Pommier, est-ce que... c'est quelque chose sur lequel vous êtes d'accord? On ne peut pas séparer l'œuvre de Jules Verne et de la nature?
Oui, bien sûr. Je ne peux qu'être d'accord avec cette affirmation. Jules Verne a une œuvre tellement large et tellement universelle qu'il a abordé à peu près tous les thèmes que l'humanité pouvait avoir et auxquels s'intéressait à son époque, mais qui sont encore des thèmes d'aujourd'hui. Et sans doute, cette question de la nature, c'est vrai que c'est le terme qu'on utilisait de son temps. Aujourd'hui, on parle d'environnement et d'écologie. Ces termes-là n'existaient pas vraiment. Le mot écologie a été créé un peu à la même époque, en 1866, par un scientifique allemand, un naturaliste, Haeckel, qui est à l'université de Iéna et qui, reprenant un terme d'origine grecque, parlait de logos, le discours, et oikos, la maison, l'habitat, donc tout ce qui concerne le lien entre le fait d'habiter et ce qu'il y a autour. Mais Jules Verne, lui, effectivement, prend la nature pleinement, puisque son idée, c'est de, au fil de ses romans, ses voyages extraordinaires, de faire découvrir la Terre entière, donc tous les pays du monde, et surtout ceux qui étaient le moins connus, le plus loin de l'Europe. Il disait, c'est pas la peine de voyager à côté de chez nous, on peut y aller, n'importe qui peut y aller. Donc il allait très loin. Son premier roman, 5 semaines en ballon, c'est l'Afrique. Et comme on ne connaissait pas bien le centre de l'Afrique, c'est à partir d'un ballon qu'on la découvre. Donc la nature est forcément importante pour les découvreurs. Et chez lui, tantôt, c'est la nature qui fournit à l'homme les moyens d'avancer, de se développer. Et tantôt, c'est la science qui rend l'homme tout puissant au point de vouloir dominer la nature. Donc il y a toujours un petit peu une chose et son contraire chez Jules Verne. Tantôt, on utilise la nature parce qu'on en a besoin, et tantôt, on veut la dominer au profit de ce que l'homme veut faire. Donc on pourra développer un petit peu ça. Mais je me suis... c'est le thème central de cette revue que je viens de vous montrer, l'homme et son environnement. On l'avait choisi exprès en pensant aux utopiales, en pensant Nantes, capitale verte de l'Europe actuellement. Et c'est aussi un thème qui a été encore peu traité, l'environnement, l'écologie, par rapport à Jules Verne, et donc que l'on a un peu affiné, un peu poussé. L'année dernière, en fin d'année, aux rencontres Jules Verne, j'avais fait une petite intervention en reprenant une phrase de Voyage au centre de la Terre qu'on vient de citer. Et cette phrase, c'est « Qui l'emportera de l'homme et de la nature ?» Et Jules Verne donne une certaine réponse dans ce roman, mais donnera tout au fil de son œuvre des réponses diversifiées, parfois contradictoires. Et il montre bien, c'est son époque qu'il reflète, mais son avis personnel, on pourra développer un petit peu. Il était contre la chasse, il ne menait pas la chasse. Il était pour la défense des éléphants, en disant « ils vont disparaître », des baleines, pareil. Enfin, donc il a quelques phrases et sentences bien senties qu'on pourra éventuellement évoquer tout à l'heure.
Daniel et Monsieur Pommier, est-ce qu'on peut dire que Jules Verne et son œuvre est écologique ou écologiste? Est-ce qu'il y a ces préoccupations-là en fait qui dominent?
Cette préoccupation-là domine très très est très très forte. Oui, je parlais de citations sur les baleines. Il dit par exemple dans 20 milieux sous les mers. L'acharnement barbare et inconsidéré des pêcheurs fera disparaître un jour la dernière baleine de l'océan. On s'en rapproche. Et il disait, lorsque les mers seront dépeuplées de baleines et de phoques, alors encombrées de poulpes, de méduses, de calmars, elles deviendront de vastes foyers d'infection, puisque leurs flots ne posséderont plus ces vastes estomacs que Dieu avait chargé d'écumer la surface des mers. Donc, pour dire, il y a un équilibre dans la nature, les choses se complètent les unes les autres. Et donc, il évoquait bien ça. Et puis, pareil, peut-être pour d'autres, il disait ils ont assassiné le sol en parlant des fermiers ou de la forêt, et pareil pour les éléphants. Donc on voit bien cette préoccupation qui est très forte chez lui, même si certains de ses héros ont besoin de chasser pour se nourrir, ont besoin, pour avancer, de dominer les forces de la nature. Mais au final, il ressent aussi ce risque de maîtrise et de détournement, et finalement volonté de domination de l'homme qui irait finalement à l'encontre d'un bon équilibre. Et il dit à propos dans le pays des fourrures, à propos de la chasse contre ces animaux à fourrure, il dit à la fin, la nature humaine est ainsi faite et l'appât du gain entraînera toujours l'homme plus loin et plus vite que l'intérêt scientifique.
Daniel, c'est des choses que tu as ressenties à la lecture?
Oui, bien sûr, c'est frappant. Enfin, moi, il y a une image qui me reste, c'est dans Autour de la Lune, lorsque les trois passagers du fameux obus lancé depuis la Floride voient la Terre, et que l'évocation justement de cette planète fragile dont on ne voit qu'un petit croissant, ce qui est très très joli, est là, pas très loin, si loin en même temps pour les héros. Et que toute sa beauté, toute sa fragilité frappe les trois passagers et puis frappe le lecteur aussi de la même façon. Quoi. On est habitué maintenant à voir des images comme ça. C'est ça qu'il faut replacer dans le contexte. C'est que cette vision de la Terre que Jules Verne évoque, Nous, maintenant, on la voit avec des images, avec des films, etc. Mais à l'époque, c'était purement projection imaginaire et c'est superbe. Ça donne justement cette conscience écologique planétaire, je pense, à des jeunes lecteurs. C'était le but qu'ils recherchaient aussi, hein, d'attirer l'attention et de sur la fragilité de certaines choses, hein, comme l'a dit Monsieur Pommier.
Vincent Calbeau, on va vous donner la parole. Peut-être un premier sentiment sur vous et Jules Verne. Est-ce que ça a compté ou pas du tout, en tant que lecteur et dans votre parcours?
Oui, donc moi, forcément, j'ai été fort inspiré par l'œuvre de Jules Verne et surtout par la façon dont il narrait ses histoires. Moi, je considère que c'est vraiment l'un des précurseurs de l'écologie contemporaine, parce que, comme on vient de l'expliquer, ça a été le premier à magnifier la nature, aussi bien dans sa beauté que dans sa violence. Ça a été le premier à raconter une nature respectée, une nature qui elle-même devient le personnage principal de ses romans, et une nature qui est elle-même architecte, donc, c'est-à-dire une nature qui construit des façades de fjords monumentaux splendides, qui construit des voûtes arborescentes dans les forêts amazoniennes. Et aujourd'hui, 150 ans après les premiers voyages extraordinaires, c'est intéressant de voir comme on est passé en un siècle et demi d'une nature respectée qui était renouvelable à une nature aujourd'hui bafouée et à cette prise de conscience écologique que l'on a eue depuis plusieurs années.
Vous avez dit un mot, vous avez dit inspiré. Globalement, dans votre travail, quelle est la trace de Jules Verne?
Donc, en fait, la trace, l'empreinte de Jules Verne sur mon travail, c'est la liaison entre comment on peut allier le progrès technique avec le respect de l'environnement. Donc c'est toute la question qui est posée aujourd'hui aux constructeurs de la ville et des bâtiments intelligents, c'est de se dire est-ce qu'il est possible par les biotechnologies et les technologies de l'information et de la communication de allier développement économique et respect de la planète, respect de l'environnement. Et je pense que c'est justement par toujours cette anticipation que faisait Jules Verne en dressant des ponts entre la recherche fondamentale de l'époque et la recherche appliquée en industrie, il essayait d'imaginer tous les futurs possibles à partir de techniques existantes, et c'est exactement la démarche que j'applique à mon travail.
On va revenir un petit peu sur ces notions qui sont très importantes, mais avant je voulais poser une question à Jean-Yves Pommier. On parle de précurseur par rapport à son époque. Quand on dit Jules Verne un petit peu écologiste ou tout du moins soucieux de la nature, il était à part, il était minoritaire, il était vraiment précurseur?
Mais il est précurseur en ce sens que lui, il fait le lien entre la nature et le monde réel qui l'environne, et le monde tel qu'il est en devenir. La nature, on la trouve chez les romantiques aussi, donc d'une autre façon, magnifiée, très belle, mais ça n'est pas la même approche. Jules Verne est le premier, sans doute, à montrer la vie telle qu'elle est, et il montre des sociétés, au travers de ses histoires, qui vivent dans un cadre et qui essaient de construire, de découvrir et d'adapter à ce cadre des techniques nouvelles qui sont en gestation. Il n'invente pas grand-chose en fait, mais il met en situation, il donne vie aux sous-marins, il donne vie à ce qui deviendra l'avion ou l'hélicoptère, il donne vie à plein de machines extraordinaires. Et donc il confronte finalement cette évolution du progrès technique et scientifique avec la Terre telle qu'elle est, et donc avec la nature. Et en même temps, il achève la découverte de la Terre qui était, disons, réalisée à 90% à son époque. Mais il restait encore le cœur de l'Afrique, quelques zones, les pôles qui restaient encore à découvrir. Donc voilà un petit peu cet apport original. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est le cas de le dire, c'est qu'aujourd'hui, on relit encore avec plaisir Jules Verne, et qu'il, même si un certain nombre d'éléments ont daté, puisqu'il décrit par rapport à sa situation du deuxième partie du 19e siècle, mais on trouve encore à s'émerveiller et à découvrir des situations qu'on peut transposer assez facilement aujourd'hui. C'est ça. Le résultat, c'est qu'il est aujourd'hui l'écrivain français le plus traduit dans le monde, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on compte tous les grands écrivains qu'on peut avoir. C'est toujours Jules Verne le plus traduit.
Juste cette conscience environnementale qu'il avait, il était isolé dans son 19e siècle, ou c'est des choses qui commencent déjà, des idées qui commencent à poindre?
Bon, il n'était pas le seul, bien sûr, mais on est quand même dans la phase fin 19e du progrès scientifique et technique, et cette notion de la machine qui prenait de plus en plus d'importance et qui se développait, était quand même dominante. Et lui, si on regarde bien ses romans, la plupart de ces machines extraordinaires finissent par se détruire ou s'autodétruire, et il avait un certain recul, pessimisme parfois, en tout cas une prudence vis-à-vis de cette forme de progrès, en disant n'allons pas ni trop loin ni trop vite, il y a des équilibres à respecter, dont celui de la nature.
Daniel, tu voulais ajouter quelque chose?
Il était très soucieux d'avoir des renseignements à la source. Il connaissait énormément de scientifiques. Il écoutait. Il disait qu'il avait dans ses tiroirs de quoi écrire encore des centaines et des centaines d'histoires, simplement en ayant entendu des conversations, lu, échangé des courriers, lu des lettres qu'il recevait de gens auxquels il s'intéressait pour justement leur connaissance. C'était un bourreau de travail. On n'imagine pas ce que Jules Verne écrirait de nos jours avec l'Internet à sa disposition. Parce qu'il passait des heures et des heures en bibliothèque, il prenait des notes d'une façon extrêmement soignée, précise. Il était dans un monde de construction imaginaire, mais vraiment basé sur la réalité. En fait, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il ne voulait pas partir sur des choses qui risquaient de pervertir, de tromper l'esprit de ses jeunes lecteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il écrivait aussi dans la perspective de l'éducation de jeunes. Donc ça, c'était très important. Par exemple, pour De la Terre à la Lune, il parlait de l'œuvre de Wells en disant... l'auteur de La Guerre des Mondes, lui, il vient de Mars avec un métal qui annihile la gravité. Ça ne lui plaisait pas du tout. Lui, il disait, moi, j'ai envoyé mes personnages sur la Lune dans un obus avec un canon. Ça, c'est de la physique. Ça, on peut y croire. Et donc, c'est important de voir qu'il était soucieux vraiment de précision. Et le fait que ces machines se détruisent pour la plupart, effectivement, c'est, on a presque l'impression qu'il se laissait emporter vers les choses. Et puis qu'à un moment donné, il se disait, revenons à la réalité et puis restons quand même dans une certaine logique. Parce qu'il ne se lançait jamais dans l'écriture d'un roman sans en connaître déjà la fin. Il l'a écrit, il l'a dit, il était un constructeur d'histoire autant qu'un constructeur de machines. Il travaillait avec une méthode très rigoureuse, il construisait le début, le milieu, la fin de ses romans. Il se lançait dans un roman quand il avait une idée très globale de son livre et il voyait son but, il avait sa cible. Hein, et donc ça, c'est très intéressant à savoir.
Oui, pour compléter un petit peu, il est vrai que Jules Verne situait ses romans pratiquement dans l'époque où il vivait, quelques années avant, quelques années après, mais très peu dans le futur. Le seul livre qu'il avait situé un siècle plus tard, Hetzel n'a pas voulu le publier, c'est Paris au XXe siècle. Il était peut-être encore là plus pessimiste que dans les autres. Et je corrobore tout à fait ce qu'on vient de dire sur la préparation et le travail de recherche qu'il faisait. Chaque fois qu'il emmenait ses héros quelque part, il faisait précéder. Enfin, dans son roman, on commençait par connaître tous les explorateurs, tous ceux qui avaient précédé ses héros. Ça rendait crédible. C'est-à-dire que l'histoire après, c'est un de plus, mais il allait sur les pas des autres. Et donc, on était pris dans cette histoire réelle. Et finalement, après, il inventait son voyage extraordinaire à sa façon. Mais c'était tout à fait crédible dans son temps, puisque c'était la poursuite de ce que faisaient les autres, des découvertes et des voyages qui alimentaient les chroniques quotidiennes. Et lui, il lisait particulièrement tous les récits. Un grand travail. Quand il est mort, on a retrouvé des petites caisses de carton avec 20 000 fiches, des notes qu'il prenait et qu'il n'avait pas encore utilisées. Mais quand il l'utilisait, il rayait les phrases qu'il prenait et après, il détruisait ses fiches. Donc, on en a encore d'ailleurs en stock. Donc, on continue à examiner les fiches de Jules Verne pour savoir sur quel sujet il travaillait et sur quel sujet on aurait pu avoir d'autres romans.
Voilà une bonne idée de roman. Sur cette interaction entre technologie et imagination, je voulais vous poser la question, Vincent Calbeau. Quelle est la part d'imagination dans ce que vous faites? Parce que j'imagine qu'il y a de très très fortes contraintes, et environnementales et scientifiques.
Voilà, donc c'est en cela aussi que je me rattache au parcours de Jules Verne. C'est que la force de Jules Verne, c'était de synthétiser son époque, donc d'être comme une éponge, d'absorber tous les progrès techniques à l'aube des grandes révolutions industrielles qui ont suivi. et de faire, de mettre en situation ces progrès via l'imaginaire, via la création. Et donc, c'est vrai que dans le métier que j'exerce, qui est un métier à la base de contraintes techniques, économiques, financières, politiques, je crois que le premier vecteur, c'est le vecteur de création et de proposer des projets qui provoquent des émotions, qui inventent une histoire avec de la poésie et qui projettent vers des mondes qu'on ne soupçonne pas encore aujourd'hui, des mondes qui régénèrent un peu la façon dont on vit aujourd'hui. Et donc, tout cet imaginaire mis en place dans les projets d'architecture, je sais qu'en général, par exemple, dans les écoles, dans l'apprentissage des métiers artistiques, actuellement, on rabâche un peu à tous les élèves. Vous êtes à un carrefour de crise écologique et de crise économique. Donc, on va rester pragmatique dans notre époque et on ne va pas se projeter trop loin. Et moi, souvent, quand je suis en professeur invité, j'essaye justement de déclencher la mentalité inverse, de dire projetez-vous le plus loin possible, visez la lune pour toucher les étoiles et essayez d'étudier comment on peut transformer les contraintes de notre monde en opportunités. Et en fait, c'est un peu le message qui est véhiculé par l'affiche qui est derrière moi. C'était, par exemple, le fait de proposer une mobilité du futur à zéro émission de carbone, qui soit le symbole donc, de notre génération post-carbone, post-nucléaire, qui permet de se déplacer dans ces grands zeppelins verticaux, qui se déplace grâce à de l'hydrogène généré par le recyclage des algues vertes qui proviennent du nitrate de l'agriculture intensive de notre époque. Et c'est de dire... Est-ce qu'on peut s'inspirer des forces de la nature, des écosystèmes, pour faire en sorte que les déchets générés par certains êtres vivants deviennent des opportunités, des matières, des ressources naturelles pour d'autres ?
Ça veut dire que tout... On va faire un petit point sur cette affiche, hein, on va en profiter. Ça veut dire que tout ce qu'on voit, éventuellement, ce serait technologiquement réalisable.
Voilà, donc c'est un peu notre façon de travailler, c'est de se baser sur des technologies existantes, qui est la panélisation des algues vertes, qui sont un peu les futurs panneaux photovoltaïques de demain. Et donc, la procédure, c'est de dire que les algues vertes sont capables de désintégrer les particules de CO2 et les particules plastiques, qui, par exemple, on retrouve partout dans les océans, qui sont aujourd'hui pollués. Et cette dégradation se fait par un processus accéléré de photosynthèse, donc à savoir que les algues vertes sont comprimées dans des aquariums anaérobies, donc sans oxygène, et génère de l'huile qui peut être transformée en chauffage, en électricité et en hydrogène. À savoir que les piles à hydrogène, c'est le point clé des bâtiments intelligents du futur, des bâtiments renouvelables, car c'est elles qui permettront de stocker l'électricité produite par les éoliennes, par les cellules photovoltaïques, dans le bâtiment, transformant ainsi chaque bâtiment en sa propre centrale énergétique. Et du coup, on va passer à un nouveau modèle énergétique où la distribution n'est plus centralisée, mais répartie. Donc, c'est un peu ce que raconte cette histoire, cette affiche, c'est de dire est-ce qu'il est possible, à partir des technologies de laboratoire de recherche fondamentale aujourd'hui, de dresser des ponts vers la recherche appliquée en industrie. Et nous, on essaie de travailler avec des industriels, avec des constructeurs, pour mettre en situation, narrer des histoires et voir comment, après... on pourra mettre ces techniques en œuvre. Donc, par exemple, ici, c'était des zeppelins qui flottaient dans les airs, qui permettaient de se déplacer d'un point à un autre, notamment pour le fret, qui permettait d'aider les réfugiés climatiques. Mais cette technologie, actuellement, des panneaux d'algues vertes, nous l'étudions sur un projet de tour beaucoup plus concrète pour avoir une tour autosuffisante en énergie. Et donc, on aime bien travailler à partir d'une technologie, la déployer tout d'abord dans un projet volontairement utopique à long terme et ensuite la ramener pour la rendre concrète à l'instant T d'ici 5 à 10 ans.
Juste une précision, qu'est-ce qui naît de la poule ou de l'œuf ? Est-ce que c'est l'idée des zeppelins et après vous cherchez en termes de science ou c'est les recherches scientifiques que vous faites qui à un moment déclenchent l'idée ?
Ouais, c'est la deuxième solution.
C'est la deuxième solution.
Nous, on absorbe aussi, moi aussi je fais 10 000 fiches sur les innovations technologiques, j'ai ma petite bibliothèque. Et à partir de ça, j'essaye de composer les nouveaux modes de vie de demain. Donc, c'est-à-dire qu'un architecte, ce n'est pas seulement construire des bâtiments, penser à la lumière, aux espaces, c'est aussi remettre en question la société d'aujourd'hui pour savoir est-ce que demain, on peut vivre autrement. Je prends toujours l'exemple de mes parents, où dans leur éducation, par exemple, on leur a dit, moi je viens de Belgique, on leur a dit que quand tu seras grand, tu travailleras à Bruxelles, Et la réussite sociale, c'est avoir son pavillon quatre façades avec un petit jardin à l'extérieur de la ville. Ça a généré des villes hyper énergivores. Et donc aujourd'hui, par exemple, on travaille sur le rapatriement du milieu agricole au cœur de la ville. C'est le projet Dragonfly à New York qui pose la question de est-ce qu'on peut ramener les lieux de production alimentaire dans les lieux de consommation. Et donc, grâce aux nouvelles technologies, on essaye de proposer des alternatives de mode de vie éco-responsable.
Vaste projet, vaste programme. On va revenir à Jules Verne parce que pareil, qu'est-ce qui précédait à l'imagination ? Est-ce que c'est l'idée et après scientifiquement il s'appuyait ou il cherchait ? Ou est-ce que c'est justement toutes ces recherches scientifiques en bibliothèque, etc. qui lui donnaient l'idée des livres ? Est-ce qu'on sait ça ? Qui veut répondre ?
Oui, c'est un peu tout ça à la fois. Parce que Jules Verne s'est cherché aussi dans son œuvre. Il a commencé par écrire des poésies, puis des nouvelles, puis des pièces de théâtre et des comédies musicales. Et puis jusqu'au jour où il a fait cette rencontre un peu fondatrice avec un éditeur Hetzel qui l'a orienté. Il lui a proposé des textes qui ne lui plaisaient pas trop et il l'a orienté vers cette façon de travailler que seront les voyages extraordinaires, c'est-à-dire d'écrire le monde, la Terre, à partir du roman. Donc son premier but est géographique, mais en même temps de décrire la vie telle qu'elle est, telle qu'elle pourrait devenir. Donc il fait rencontrer ces territoires existants ou découverts récemment ou encore à découvrir à partir de voyages et il y met un petit peu de la science en devenir. Donc voilà, c'est un peu cette construction avec plus le contrat éditorial qui voulait que ce soit dans le magasin d'éducation et de création, donc lisible par tout le monde, par les familles, les enfants. Donc ça s'adresse aux jeunes, mais pas uniquement. Après, il était un peu enfermé en catalogue d'éditeurs pour la jeunesse. C'est plutôt Hachette qui, après avoir repris Hetzel, a fait ça avec la Bibliothèque Verte en réduisant un petit peu les textes. Mais on voit aujourd'hui que Jules Verne est un auteur qui parle à tous, aux adultes comme aux enfants.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une, si ce n'est une défiance, ou du moins une crainte un petit peu des machines et de leur impact.
Oui, il avait toujours peur qu'il y ait un détournement. C'est-à-dire que pour lui, le progrès est bénéfique si on l'utilise au profit de l'humanité. Mais il disait, c'est détourné par certains pour exercer une forme de puissance. Et comme lorsqu'on veut désaxer la Terre dans son dessus-dessous pour faire fondre les glaces du pôle, sachant qu'il y a au fond du pôle Nord, des ressources. Et d'ailleurs, quand on parle de fonte des glaces actuellement, vous voyez bien que les grandes puissances se précipitent pour dire « ce petit coin du pôle m'appartient ». Les Russes ont même planté des drapeaux au fond pour dire « c'est la poursuite de notre plateau continental ». Donc on voit bien que les enjeux dont il parlait sont des vrais enjeux et peuvent ressortir aujourd'hui. Conflit de puissance.
Daniel ?
Il avait une foi inébranlable dans l'humain, quand même. Hein, et dans l'île mystérieuse, par exemple, on voit très bien que les naufragés sont obligés de se coltiner concrètement avec la nature et qu'il y a à la fois l'ingénieur qui va aider par toutes ses connaissances à s'adapter à ce milieu sauvage, etc. Mais il y a aussi les petites gens, si j'ose dire, qui sont très importantes dans l'œuvre de Jules Verne, les serviteurs, les manuels, qui sont là pour apporter leur pierre à l'édifice, et on ne peut rien sans eux, en fait. Hein. Phileas Fogg n'est rien sans Passepartout. Et puis, on a toujours cette collaboration entre des personnes de milieux fort différents, de cultures différentes, de connaissances hein, scientifiques différentes, pour arriver au progrès, en fait. Hein. Et c'est ça qui m'a fasciné, moi, chez lui, c'est le fait que tout le monde a sa place. Voilà. Et on rejoint là ce qui est dit par M. Calbeau pour ces villes, en fait. Tout le monde peut trouver sa place, il faut que chacun rentre à sa mesure, avec ses possibilités, avec ses connaissances, dans un ensemble global qui va aller vers le progrès.
Voilà, donc c'est exactement ça, c'est comment allier le progrès avec la nature pour implémenter la qualité de vie de chacun. C'est vraiment le but et le discours narratif à chaque fois de Jules Verne, c'est de mettre ces personnages en situation entre cette hyper-technologie et cette nature magnifiée.
Et en même temps, on parlait de crainte sur le dévoiement de la science. Est-ce que c'est des choses qui vous importent dans votre travail de se demander quel sera le devenir des sciences et des techniques que vous utilisez?
Oui, ben donc nous, il y a tout d'abord la crainte du détournement de certaines technologies ou biotechnologies qui peuvent être utilisées à bon escient ou à mauvais escient. Et puis ensuite, il y a aussi tout le côté économique où parfois, notamment dans la construction des énergies renouvelables, il y a ce qu'on appelle le greenwashing. Donc c'est le fait d'emballer les bâtiments par une image écologique. Donc au lieu de faire un mur végétal où on intègre la nature intelligemment sur l'architecture, on le peint en vert et le bâtiment est vert, donc il est écologique. Et souvent, il y a un détournement hyper facile en fait, des technologies pour baisser le prix de construction et qui arrive à des aberrations ou à des systèmes marketing qui sont complètement dérisoires.
Monsieur Pommier, dans Planète Jules Verne, vous avez fait un article sur Vincent Calbeau. Pour quelle raison? J'en profite.
Oui, c'était naturel, parce que l'idée de Planète Jules Verne, c'est de montrer à la fois repartir de l'homme, son œuvre, d'un certain nombre de autour de la thématique que l'on retient, et de voir comment aujourd'hui on prolonge d'une certaine façon cet imaginaire de Jules Verne. Et partant d'écologie, on a rencontré effectivement plusieurs personnes, quelques architectes, Jacques Rougerie qui est un peu évoqué, mais beaucoup Vincent Calbeau. Et il y a effectivement un article sur lui qui de plus a été écrit par Hugo Bellagamba, qui est très connu ici aux Utopiales, mon directeur artistique. Et c'est vrai que c'est un temps fort et qui illustre parfaitement cette thématique et comment aujourd'hui encore l'imaginaire joue beaucoup pour construire, améliorer le cadre de vie. Et donc ce sont comme des enfants de Jules Verne, de ces héros que l'on cherche à trouver de par le monde. Et il y en a fort heureusement quelques-uns. Il y a notamment dans cet article, on évoque l'île Lilipad, qui était un de vos projets, qui fait penser d'une certaine façon à l'île Élise de Jules Verne. On lui souhaite un meilleur avenir et devenir, parce que l'île Élise, là aussi, a été l'objet de conflits. C'était une île pour milliardaires, un paquebot un petit peu des temps modernes, qui parcourait tout le Pacifique et les îles d'Océanie. Et finalement, comme il y avait deux parties et deux moteurs, les gens ont fini par ne plus s'entendre et l'île n'était plus manœuvrable et s'est autodétruite. Voilà. Espérons qu'il y aura de meilleurs usages pour ce Lilipad.
Vous nous faites un petit point sur ce projet, rapidement?
Donc, le projet Lilipad, c'est le projet fondateur de mon atelier d'architecture. C'est un projet qu'on avait fait de façon complètement spontanée suite au discours hyper anxiogène qu'il y avait sur le dérèglement climatique. Donc il y avait eu les grands reportages de Nicolas Hulot, d'Al Gore, de Yann Arthus-Bertrand, où quand on arrivait à la fin, on avait envie un peu de se tirer une balle, tellement que ce genre de reportage ne proposait aucune solution. Et donc en tant que jeune architecte un peu idéaliste et rêveur, on a voulu dire, est-ce qu'un jour il sera possible de vivre en osmose complète avec les océans en créant des villes qui soient autosuffisantes en énergie ou même à énergie positive, c'est-à-dire qu'elles produisent elles-mêmes son énergie électrique, son énergie calorifique et son énergie alimentaire. Et donc le projet Lilipad, donc, qui est en français le projet Nénuphar, est un projet qui est inspiré de la feuille géante Victoria Regia d'Amazonie, qui a une plasticité hyper efficiente, c'est-à-dire que ce sont des feuilles de plus ou moins 2-3 mètres de diamètre qui existent dans la nature, sur lesquelles on peut tenir debout. Et donc on s'est inspiré de cette structure radiale et concentrique hyper efficace pour la ramener dans le plan de structure et proposer une ville flottante qui est nomade sur les océans et qui, à la base, avait été proposée pour l'île de Kiribati dans l'océan Pacifique en vue d'abriter les futurs migrants environnementaux qui sont les éco-réfugiés ou réfugiés climatiques, c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle population qui vont devoir changer de territoire suite au dérèglement climatique initié principalement par les pays occidentaux. Et donc c'est un projet qui nous a amené à voir l'architecture dans une dimension un peu géopolitique. On était faire des conférences à l'ONU, des conférences au Parlement européen sur ce projet-là, pour dire quel est le statut de ces réfugiés climatiques, comment on va les abriter, quel type d'architecture on peut faire, et est-ce qu'on peut proposer une architecture qui flotte sur l'eau, qui ne soit pas de la construction sur pieux ou de la construction sur des polders, c'est-à-dire des amoncellements de sable, qu'on le voit partout aux Émirats Arabes Unis ou en Hollande.
Oui, ça me fait penser à une phrase de Jules Verne qui complète, j'avais commencé à l'évoquer, du capitaine Nemo. Il dit « La mer est tout, elle recouvre les 7/10 du globe terrestre, son souffle est pur et sain, c'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. » Donc la mer est le vaste réservoir de la nature, je l'avais dit. Là est la suprême tranquillité. Donc oui, c'est, voilà. Il y a beaucoup d'avenir pour cette île.
Parce que donc effectivement... au monde, il y a 75% de la planète qui vivent dans les villes et 75% des villes sont sur des zones littorales. Actuellement, bon, on sait que la montée de la température du globe d'un degré va augmenter l'augmentation du niveau de l'eau de 1 mètre. Et donc, on a plein de pays ou de zones littorales qui vont être submergées aux Pays-Bas, au Bangladesh, aux Maldives. Et donc, le discours, c'est... de Kiribati, et donc il est important sur le mode vernier, entre guillemets, d'anticiper dès aujourd'hui les solutions de demain pour avoir le temps de les mettre en place et en œuvre intelligemment.
Parlons un peu vous avez commencé à le dire tout à l'heure, Jules Verne est un auteur qui se lit encore bien aujourd'hui. Est-ce que ses idées sont modernes, entre guillemets, la modernité de son œuvre sur cet impact environnemental?
Oui, ben, je crois que le fait même d'en parler aujourd'hui de la façon dont on le fait montre à l'évidence qu'il est tout à fait moderne, parce qu'on peut effectivement reprendre, s'inspirer de l'approche qu'il avait, même s'il faut la remettre au goût du jour, parce qu'on a plus de connaissances techniques qu'on en avait au 19e siècle. Mais ce type d'approche est bien celle qui caractérise l'œuvre d'un architecte comme vous-même, ou Jacques Rougerie, ou quelques autres créateurs qui se disent... On peut agir autrement en interaction entre les éléments, la nature, etc., pour essayer de changer un petit peu le monde.
Daniel, quand tu fais l'anthologie donc, à destination plutôt des élèves, pareil, c'est moderne, ils accrochent facilement, ils le lisent encore bien, et on le lit encore bien, nous.
J'ai eu des retours qui m'ont fait énormément plaisir, à savoir que des jeunes m'ont dit, après avoir lu tel ou tel extrait, ça m'a donné envie de lire le livre. Alors moi, c'est le but recherché. Revenir au texte fondamental dans son intégralité, et non pas avec toutes les versions un petit peu édulcorées qu'on a pu faire. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a de nos jours quand même des aspects dans l'œuvre de Vernienne qui peuvent être un petit peu rébarbatifs pour des jeunes. En particulier, dans 20 milieux sous les mers, la description... par toutes les différentes classes des poissons, des mollusques, de ceci, de cela. Il y en a des pages entières. Et c'est vrai que ça avait, à cette époque-là, un rôle extrêmement éducatif, instructif. De nos jours, ça pourrait paraître un petit peu rébarbatif. Finalement, quand on s'y attache sérieusement, on se rend compte qu'on apprend encore énormément de choses grâce à l'œuvre vernienne. La liste immense des prédécesseurs de Nemo aux abords du pôle sud, le nombre impressionnant de découvreurs de contrées avant le capitaine Hatteras au pôle nord, etc. Ça fait des pages qui peuvent paraître un petit peu rebutantes pour des jeunes, et finalement, s'ils s'y attaquent avec un peu de courage, ils vont apprendre encore beaucoup de choses de nos jours. Donc, indépendamment de l'aventure, de l'aspect imaginaire, etc., il y a toujours une base extrêmement solide et sérieuse dans les voyages extraordinaires.
Une petite question à toi qui es auteur de science-fiction. L'influence de Jules Verne et de ses thématiques?
Écoutez, la science-fiction, c'est que se passerait-il si... Et Jules Verne, c'était un auteur d'anticipation scientifique. Ça répond à la même question. Que se passerait-il si? On n'arrive pas peut-être tout à fait au même résultat avec la même démarche, mais la problématique est la même. Hein. Et alors qu'avec la science-fiction, on va peut-être s'autoriser des libertés que scientifiquement, on ne peut pas admettre actuellement, comme passer par l'hyperespace, par exemple. Moi, je fais voyager mes vaisseaux spatiaux très, très facilement par l'hyperespace parce que ça m'arrange. Hein, c'est une espèce d'abracadabra qui fait que on va passer d'un bout à l'autre de la galaxie en repliant l'univers, et bon, c'est bien. Donc, quand j'interviens devant des jeunes, je leur explique que tout ça, c'est de la science-fiction. Et puis après, je fais une petite part à la science en parlant un petit peu des distances astronomiques et en leur expliquant que... Je sais qu'il va y avoir une table ronde sur Avatar, mais en leur expliquant que la Lune Pandora du film Avatar, c'est en quelque sorte nos plus proches voisins, qui sont à 4 années-lumière, si tant est qu'il y ait quelque chose là-bas, et que pour aller sur Pandora, il faudra qu'on claque des doigts pendant 4 ans, sachant qu'à chaque fois qu'on claque des doigts, il se déroule une petite seconde, et que cette petite seconde, c'est 300 000 km à la vitesse de la lumière, et c'est donc la distance entre la Terre et la Lune. Et que pour aller chercher du sucre ou de la farine pour faire le gâteau qu'on a envie de faire pour maman, pour son anniversaire, parce qu'on a oublié de passer chez le pâtissier, il va falloir qu'on aille sonner chez les voisins pour emprunter du sucre ou de la farine, et que donc on va claquer des doigts pendant 4 ans à la vitesse de la lumière pour y aller. Et puis il nous faudra le même temps pour revenir. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur exemple pour des jeunes que de comprendre que la Terre est fragile ? Parce qu'on n'est quand même pas prêt d'en partir. Alors donc tout ça, je pense que si Jules Verne était encore de nos jours parmi nous, il aurait une imagination qui continuerait à être intéressante, si j'ose dire. Hein. C'est-à-dire que il partirait sur d'autres choses peut-être, mais il ramènerait quand même dans son esprit à lui à quelque chose qui serait de l'anticipation scientifique. Voilà.
Juste l'influence sur toi, tu as lu beaucoup Jules Verne ?
Alors moi, j'avoue franchement que non, j'avais pas beaucoup lu Jules Verne, j'avais lu comme tout le monde quelques romans, Voyage au centre de la Terre, j'avais jamais lu 20 milieux sous les mers, vous voyez. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé toute la classification animale un petit peu longue à lire de nos jours. En fait, les éditions Flammarion, sachant que j'avais écrit de la science-fiction puisque j'ai publié chez eux, et puis me sachant professeur de français et à la retraite, donc disponible pour me pencher à nouveau sur la pédagogie avec un autre aspect des choses, m'ont demandé de faire cette anthologie sur Jules Verne. Au début, j'ai dit non. Enfin, dans ma tête, j'ai pensé non, mais plus personne ne lit Jules Verne maintenant. Enfin bon, c'était un auteur qu'on lisait autrefois, mais pas maintenant. Et puis après, je me suis dit, bon, alors, tu as toujours dit que tu ne voulais pas qu'on juge la littérature de science-fiction sans avoir mis son nez dedans, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées préconçues sur le genre. Et je me suis dit, tu ne vas pas faire la même chose. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais lire un bouquin de Jules Verne et je vais voir, je vais prendre ma décision après. Et le premier qui m'est tombé sous la main, si j'ose dire, c'est L'île mystérieuse. Donc, 830 pages, je ne l'ai pas lâché. Du début jusqu'à la fin, j'ai été passionnée par le bouquin. Et alors là, je me suis dit, bon, je vais me mettre sérieusement à travailler sur ce projet d'anthologie et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je ne les ai pas tous lus. Il me reste encore un bon nombre de voyages extraordinaires à lire, mais je dois préciser que je suis bourguignonne et que ça peut paraître étrange, mais je suis une adepte de ce qu'on appelle la dégustation. Hein, c'est-à-dire, on ne boit pas un verre du premier coup, on a toute une technique pour apprécier le bon vin qu'on a dans notre verre. Eh bien, c'est ça. J'ai tellement apprécié les 25 voyages extraordinaires de Jules Verne que j'ai lus que j'en ai gardé un petit peu... à découvrir encore, pour le plaisir, voilà.
Vous avez compris, donc, la théorie viticole appliquée à Jules Verne.
Il a parlé de vin. Je ne sais plus, Monsieur Pommier peut peut-être me le confirmer. Il me semble qu'ils boivent du Nuit Saint-Georges...
En allant sur la Lune.
En allant sur la Lune, voilà. Quel meilleur endroit pour emporter mes grands Bourgognes, hein.
Il nous reste quelques minutes. Est-ce que quelqu'un a une question pour nos auteurs sur Jules Verne ? Oui, allez. Alors, j'ai pas de micro sans fil, je vais juste vous demander de vous approcher.
Non, ça y est, ça vient.
Ah, si, vous êtes poursuivi.
On a évoqué tout à l'heure, effectivement, la nature, et que les machines étaient détruites, les machines de Jules Verne, mais ces machines sont bien souvent détruites par la nature. Donc, je voulais interroger un peu nos différents intervenants, et surtout l'architecte, pour savoir dans quelle mesure il prend en compte, justement, ces risques naturels de tremblements de terre, de volcans, de choses comme ça, qui sont très présents chez Jules Verne.
Vincent Galbeau.
Donc, les technologies sont censées être recyclables et recyclées. Donc nous, on travaille beaucoup avec le principe américain quaddle to quaddle, où chaque chose mise en œuvre dans un bâtiment doit être faite avec un maximum de matières recyclées qui sont vouées à être recyclables pour avoir un cycle continu. Ensuite, nous, c'est vrai que l'avènement depuis 10 ans des bâtiments intelligents, c'est en fait des bâtiments machines qui sont implémentés par les nouvelles technologies renouvelables et par les nouvelles technologies de la communication, tout ce qui est domotique. Et par exemple, actuellement, on a un chantier à Taïwan où là, on est soumis à la violence de la nature. Donc Taïwan, c'est une île qui est en face de Hong Kong. On est dans la ville de Taipei, qui est la zone la plus sismique au monde, située sur la faille entre deux grands plateaux océaniques. Et donc, on est à 10.0 sur l'échelle de Richter. En plus de cette contrainte sismique ultra forte, on a la contrainte typhonique, étant donné qu'on est en plein climat tropical, et c'est dans cette région-là qu'il y a les plus grands typhons du monde. Et donc, on a une architecture avec une géométrie spiralée hyper complexe, et on a travaillé avec une centaine d'ingénieurs internationaux pour voir comment on pouvait justement faire une tour végétalisée, mais qui en même temps puisse faire face à la violence de la nature sismique et typhonique. Et donc, on a mis différentes techniques en œuvre, notamment dans les systèmes de fondation, où finalement la tour est complètement désolidarisée de la terre sur laquelle elle est construite par un système de roulement à billes qui fait que la terre pourra bouger, mais que la tour restera fixe, étant donné qu'elle sera mise sur un système de roulement à billes, comme si elle était mise sur 50 skateboards différents. Et donc c'est cette technologie qui est étudiée au Japon depuis plus d'un siècle maintenant, qu'on est venu essayer d'améliorer pour assurer la stabilité. Et donc tout ça pour vous dire que la violence de la nature, il faut l'intégrer dans nos bâtiments intelligemment, et ça nous pousse aussi à l'innovation et des projets qui parfois peuvent sembler hyper complexes à réaliser, comme ceux qui sont présentés dans la galerie, en fait poussent aussi l'imaginaire tellement loin que ça crée dans les relations humaines, dans l'équipe de création, que ce soit les ingénieurs structures, les ingénieurs fluides, les architectes, les hommes politiques, les financiers, ça crée une dynamique ultra forte de se dire on rêve un projet qui n'existe encore nulle part dans le monde, et on se bat tous pour cette innovation, pour ce progrès technique qui va essayer de rétablir donc l'équilibre entre la ville et la nature, en rapatriant cette nature souvent expulsée au cœur de la ville, et en composant de nouveaux progrès techniques qui permettent cette viabilité.
Un petit mot, Monsieur Pommier, sur la violence de la nature chez
oui,
Jules Verne.
Chez Jules Verne, en fait, les machines qui s'autodétruisent, c'est parfois un peu la nature, mais c'est aussi souvent l'action humaine et la volonté de superpuissance ou les antagonismes entre les hommes. Les deux villes nouvelles de 500 millions de la Bégome, c'est parce que ils peuvent pas s'entendre, ils sont proches, mais les exemples comme ça peuvent se multiplier. Donc il y a toujours un peu un équilibre entre les deux. Bien sûr, il y a aussi des tempêtes, il y a aussi des phénomènes naturels qui viennent contrecarrer certains engins et certaines machines, mais c'est plutôt la folie des hommes qui est souvent en cause chez Jules Verne.
Est-ce qu'on a une autre question pour ce premier débat ? Oui, non ? Bon, et ben, moi je voudrais juste terminer sur peut-être votre livre préféré chacun de Jules Verne et celui qui est en plus en prise avec notre thématique. S'il fallait en lire un, ce serait lequel ?
Pour moi, c'est 20 milieux sous les mers, parce que c'est le premier livre de Jules Verne que j'ai lu, et c'est celui qui m'a donné envie de lire les suivants. Oui. Et c'est celui qui m'a beaucoup influencé. J'ai toujours beaucoup aimé travailler avec l'océan, qui recouvre 75% de notre planète, et donc je pense que ça ouvre les portes de l'imaginaire à 360 degrés.
Daniel ?
Moi, sans aucun doute, celui que je sauve personnellement, c'est Hector Servadac, l'histoire du capitaine Servadac qui, en Algérie, voit une comète passer, un petit morceau de l'Algérie part, et il se retrouve à faire le tour du système solaire, mais c'est sans doute, parce que pour moi c'est le plus science-fiction de tous, que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, avec toute cette découverte du système solaire progressivement, et puis ce retour... Ce retour sur Terre, où j'ai conclu d'ailleurs mon anthologie par ce petit passage-là, où Servadac retrouve ses amis qui lui disent « Mais enfin, où étiez-vous ?» Et il dit « De toute façon, il vaut mieux rien dire, personne ne me croirait. Il valait mieux se taire. Voilà. »
Monsieur Pommier.
Oui, alors le choix est difficile et bien sûr, un milieu sous les mers est sans doute l'un des préférés. Mais pour ne pas retomber dans les plus classiques non plus, je vais vous en citer un autre, c'est le rayon vert, qui lui n'est pas une histoire avec des machines extraordinaires, c'est au contraire une petite histoire finalement qui met en évidence le pays d'Écosse que Jules Verne appréciait beaucoup. Il est allé lui-même avec ses bateaux et qui était le pays d'origine de sa mère, la famille de sa mère. Et le rayon vert, parce que c'est aussi un phénomène scientifique qui était bien sûr connu, identifié depuis la nuit des temps, mais dont l'explication scientifique n'est arrivée qu'à peu près dans ces mêmes périodes. Et donc il a aussi su saisir un petit élément de science pour en faire un roman et donc trouver autour de cette apparition et de cette quête du rayon vert toute une petite histoire qui n'a rien à voir avec les autres. Il n'y a pas de science en dehors de ce problème du rayon vert. Et c'est une des rares histoires où il y a une femme qui est au centre des romans de Jules Verne.
Eh ben, je vais vous remercier. Restez là, parce que sur le prochain débat, on va encore parler d'écologie. On parlera du Monde Vert de Brian Aldiss. On parlera également de Spirou. On pourra poser la question si Spirou est écologique ou pas. En tout cas, merci à vous d'être venus et puis merci aux intervenants.